particulièrement où l'enfant est considéré comme une richesse, la procréation est très importante pour le bonheur des couples. Mais certains couples ne parviennent pas à procréer. On parle alors des couples infertiles ou stériles. La femme étant celle qui accouche, elle est souvent pointée du doigt comme responsable de l'infécondité du couple. Mais d'un point de vue médical, ce n'est pas toujours vrai. Pour comprendre les contours du phénomène, nous recevons cette semaine le docteur Ernestine Bell. Elle est gynécologue obstétricienne et fondatrice de la clinique Odyssée à Douala, capitale économique du Cameroun. Selon elle, il n'y a qu'un tiers des cas seulement où la femme est seule responsable de l'infertilité du couple.
Quand on regarde de plus près, surtout de façon scientifique, médicale, on trouve aujourd'hui que les causes sont partagées entre l'homme et la femme. Nous avons fait des études dans 16 pays d'Afrique francophone et nous avons retrouvé en fait que dans un tiers des cas, c'est la femme qui est responsable, dans le deuxième tiers, c'est l'homme qui est responsable et dans le troisième tiers, les causes sont partagées, c'est-à-dire l'homme et la femme ont des responsabilités. En matière d'infertilité de ce couple-là.
Alors, à partir de quel moment un couple qui est marié ou alors qui a des rapports sexuels réguliers, non protégés, doit commencer à s'inquiéter des problèmes de procréation?
Mais disons que c'est relatif. L'OMS pense qu'à partir de un an de rapports sexuels réguliers, vivant ensemble, parce qu'il y a aujourd'hui des couples qui vivent dans les îles différentes ou dans des pays différents. Mais si les deux personnes du couple vivent dans la même maison, qu'ils ont régulièrement des rapports sexuels, c'est-à-dire minimum 3 fois par semaine, et qu'il n'y a pas une grossesse, je pense qu'une année, c'est vraiment le délai maximum pour s'inquiéter. Maintenant, cela également, il faut le moduler. C'est valable pour un couple jeune qui vient de se marier, mais quand le couple a un âge avancé, que ce soit l'homme ou la femme, évidemment que cette durée-là doit être raccourcie et elle peut aller jusqu'à 6 mois. Également, quand la femme ou l'homme a des antécédents, notamment des interventions chirurgicales, les infections, des avortements, les fibromes, toutes ces choses-là tendent à réduire la durée d'attente pour consulter devant un cas d'infertilité du couple.
Alors, parlons justement des causes ou facteurs de risque d'infertilité ou de stérilité. D'abord, avant de continuer, est-ce que vous pouvez nous situer la différence qu'il y a entre l'infertilité et la stérilité?
Alors, la stérilité, c'est quelque chose de définitif. Quand on dit une femme est stérile, ça veut dire qu'on a fait des traitements et qu'on est arrivé à un moment où il n'y a plus de résultats possibles médicalement. L'infertilité, c'est un couple qui cherche à avoir des enfants, qui va donc se diriger vers des centres de soins et qui seront pris en charge. Et dans ces cas d'infertilité, on estime que au moins 80% des couples pourront avoir des enfants. Infertilité, c'est un désir de maternité qui ne porte pas à une grossesse. Stérilité, c'est quand tout a été fait et maintenant la femme ne peut absolument plus faire des enfants.
Parlons à présent des causes ou facteurs de risque. Tout à l'heure, vous avez dit que la responsabilité était partagée entre les hommes et les femmes. Quelles sont les causes ou facteurs de risque d'infertilité d'abord chez l'homme?
Chez l'homme, on va trouver évidemment toutes les causes de mauvaise qualité de sperme. Il faut remarquer aussi que le sperme de l'homme dans le monde entier, et particulièrement en Afrique, a perdu de sa qualité les 50 dernières années. Le sperme est de plus en plus de mauvaise qualité. Et cette qualité consiste le nombre de spermatozoïdes par millilitre, ce qu'on appelle la concentration, la mobilité de ces spermatozoïdes-là et la vitalité, ainsi qu'un certain nombre de constituants qui sont contenus dans le sperme. Donc, la première cause de ces anomalies de sperme, ce sont les infections. Chez nous, je parle maintenant en Afrique, ce sont les infections. Et parmi ces infections, les infections sexuellement transmissibles, notamment la fameuse infection qu'on appelle les chlamydia. La chlamydia, le gonocoque, toutes ces infections-là altèrent la qualité du sperme et surtout peuvent boucher les canaux qui apportent le sperme des testicules jusqu'à l'urètre. La deuxième cause va être maintenant les causes environnementales, hein, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi ces spermes-là ne sont plus de bonne qualité. On va parler de pesticides, on va parler de ce que les gens mangent. Évidemment, il y a les toxiques connus comme le tabac, l'alcool, et puis maintenant d'autres maladies qui ne sont pas infectieuses comme le diabète. Le diabète a un effet négatif sur la qualité du sperme. Voilà en gros en ce qui concerne l'homme. Chez la femme, évidemment, on va retrouver les fameuses infections, les infections sexuellement transmissibles, les infections causées par les avortements provoqués clandestins, parce que ici, dans la plupart des pays, les avortements ne sont pas autorisés, mais pratiquement toutes les femmes les pratiquent. Certains vont les pratiquer dans les conditions médicales, d'autres vont les pratiquer dans les conditions criminelles au quartier où cela entraîne des infections. Et toutes ces infections-là, que ce soit transmissible ou bien dû aux complications d'avortement, d'accouchement, vont inéluctablement arriver à boucher les trompes. Les trompes de la femme, ce sont les petits tubes très très fins qui conduisent les spermatozoïdes et qui conduisent également les ovules, ensuite surtout qui permettent la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Quand ces trompes sont bouchées, évidemment cette rencontre n'est plus possible et la grossesse n'est pas possible. C'est vraiment la première cause d'infertilité en Afrique. Après, maintenant, il y a les fibromes. Les fibromes, ce sont des tumeurs bénignes qu'on trouve au niveau de l'utérus et qui sont très très fréquentes. Chez la femme, pratiquement 2 femmes africaines sur 3 vont avoir affaire aux fibromes. Ce n'est pas des tumeurs cancéreuses, elles sont des tumeurs bénignes, mais elles déforment l'utérus, empêchent l'utérus à fixer les embryons et surtout peuvent également boucher les trompes quand ça se situe au niveau de la corne de l'utérus par exemple. Il y a également une troisième cause qu'on appelle endométriose, qui est une cause fréquente et mal connue, mal diagnostiquée, mal traitée, mais qui est également une cause importante au niveau de l'Afrique. Maintenant, il y a les autres causes qui sont les malformations au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires et toutes ces choses-là qui compliquent la situation de fertilité de la femme. Et on terminera par à peu près 8 à 10% des causes qu'on appelle les causes inexpliquées. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas la cause. La femme ou l'homme n'ont pas de problème qui les empêche de faire des enfants, mais ils n'arrivent pas à faire des enfants. On trouverait là-dedans des causes un peu psychologiques, des blocages et toutes sortes.
Parlons maintenant ce qu'on pourrait appeler les moyens de prévention, les bonnes pratiques peut-être à adopter pour ceux qui n'ont pas été détectés infertiles ou stériles et ceux qui peut-être n'ont pas encore commencé à avoir des rapports sexuels. Quelles sont les bonnes pratiques de vie que vous pouvez conseiller à ces gens, à ces jeunes, d'adopter pour éviter justement de devenir infertile ou stérile?
Évidemment, elle découle de ce que je viens de dire, des causes. La première de ces bonnes pratiques, c'est vraiment avoir une hygiène de vie sexuelle. C'est-à-dire, les jeunes n'ont pas à se précipiter à avoir des rapports sexuels, surtout des rapports sexuels non protégés.
Tout à fait.
Ils doivent suivre de la prévention, éviter des rapports sexuels précocement. Mais si on est obligé de commencer à avoir des rapports sexuels, donc utiliser les mesures de prévention qui sont d'abord le préservatif. Puisque le préservatif va prévenir des infections sexuellement transmissibles et aussi le VIH-SIDA qui représente quand même quelque chose de très grave chez nous. Ensuite, éduquer par le planning familial, c'est-à-dire comment éviter les grossesses non désirées. Et ce planning familial va aussi faire l'utilisation des préservatifs masculins, féminins, la prise des contraceptifs tels que la pilule, et le stérilet chez certaines personnes, les injectables. Il y a une grosse panoplie de prévention et aussi l'éducation des jeunes qui leur permettent de se former, d'avoir un métier, d'avoir un travail. Parce que c'est ce manque de travail, cette précarité également, cette pauvreté qui va pousser les jeunes filles à accepter les rapports sexuels avec n'importe qui pour des raisons qu'elles vont avoir de l'argent. Donc c'est un peu tout cela réuni, c'est également le rôle des pouvoirs publics pour cette jeunesse africaine, pour qu'elle puisse éviter toutes ces dérives-là. On en a d'autres maintenant qui n'ont rien à l'infertilité, mais la drogue et tout cela concourt donc à s'exposer aux rapports sexuels dangereux, à risque, à l'infertilité.
Y a-t-il une chance de guérir, si on peut dire ça comme ça, de l'infertilité? Et sinon, quelles sont les alternatives qui s'offrent à ces personnes pour avoir des enfants?
Dans les centres de prise en charge en matière d'infertilité, on arrive à trouver des solutions pour à peu près 80% des couples infertiles. Quand on a fait des traitements des infections, quand on a fait de la chirurgie pour déboucher les trompes, notamment la chirurgie endoscopique, on appelle en français la cœlioscopie, on monte à l'assistante médicale à la procréation. Pour les femmes qui ont un âge qui est avancé, c'est-à-dire les femmes de plus de 42 ans, on peut aller au don de gamètes, au don de vos sites pour la femme, c'est-à-dire ces femmes âgées qui ne peuvent plus produire elles-mêmes. elles-mêmes des ovocytes, elles peuvent avoir recours aux dons d'ovocytes. Et pour les hommes, évidemment, ou le sperme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'azoospermie, c'est également une cause importante de ce qu'elles disent chez eux, c'est-à-dire les hommes, c'est qu'on ne trouve pas du tout les spermatozoïdes dans leur sperme. Ce n'est pas forcément les infections, certains sont nés comme ça, ça peut être des malformations avec les testicules qui ne sont pas dans les bourses, qui n'ont pas été défendues. Chez ces hommes-là, si on a fait des techniques de ponction des spermatozoïdes dans leurs testicules et que ça n'a pas marché, on peut également aller au don des spermes. Donc toutes ces panoplies de techniques font que, je répète, que 75 à 80% des couples peuvent avoir finalement des enfants. Il y aura toujours des barrières financières parce qu'effectivement, plus on monte dans la difficulté, plus les couples auront besoin de débourser de l'argent pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. Mais quand tout ça n'a pas marché, il reste encore l'adoption. Le couple va s'adresser au pouvoir public encore une fois pour pouvoir bénéficier d'une adoption. C'est vrai que dans nos pays, ce sont des techniques très compliquées. Nous avons beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents, qui sont dans la rue, mais les procédures d'adoption ne sont pas fluides. Donc ce couple-là, malheureusement, c'est encore un autre parcours du combattant pour qu'il puisse adopter un enfant, alors même qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents.
Nous remercions le docteur Ernestine Bell qui nous répondait depuis Douala, au Cameroun.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
Les couples infertiles peuvent trouver des solutions sur le continent africain. Les centres de procréation médicalement assistée sont rares, mais existent. Pour en parler, nous avons contacté le docteur Guy Sanjon, gynécologue obstétricien spécialiste de la procréation médicalement assistée. Il est le fondateur de la clinique de l'aéroport à Douala au Cameroun. Il y a une vingtaine d'années, il faisait mettre au monde l'un des tout premiers bébés éprouvettes en Afrique noire. Il nous a raconté son expérience. Il nous présente d'abord les principales techniques d'assistance à la procréation.
La première des méthodes, c'est l'insémination artificielle. C'est-à-dire quoi ? La femme a un appareil génital normal, les trompes sont normales, l'utérus est normal, les ovaires sont normaux. L'homme a un taux de sperme bas. Parce que vous savez, la sécurité, c'est 50-50. Ça peut venir de l'homme comme de la femme. Ou des deux. Alors, si le problème vient de l'homme et que son taux est bas, pas trop bas quand même, disons plus de 10 millions de spermatozoïdes, au lieu de normalement 20 à 30 comme il est permis, à ce moment-là, on prend son sperme, qu'on prépare et qu'on injecte à la femme. C'est un geste simple, rapide, qui dure 5 minutes, mais il faut avoir préparé le sperme, il faut le recueillir, le préparer, le centrifuger, enlever les mauvaises formes et l'injecter à la femme. Donc le rapprocher de là où il y a l'œuf de la femme. Maintenant, la deuxième étape, c'est la fécondation in vitro. Là, dans ce cas-ci, la femme a les trompes bouchées ou en mauvais état, ou alors le sperme de l'homme est toujours très très bas. La quantité de sperme ne suffit pas, même si on l'insémine, à féconder la femme. Et si les trompes sont abîmées, le sperme ne peut pas arriver sur le site, c'est-à-dire là où se trouvent les œufs. Il faut donc prélever les ovules chez la femme, prélever le sperme chez l'homme, fabriquer dans un tube, d'où le nom de bébé éprouvette, dans une éprouvette, fabriquer l'enfant par fécondation in vitro, c'est ça, in vitro, c'est dans le tube, et replacer l'embryon chez la femme après 3 à 5 jours. C'est ça la fécondation in vitro. C'est l'étape ultime. Hein. Après ça, il n'y a pas d'autre méthode.
Et certaines personnes ont peur de faire recours à ce genre de technique scientifique pour avoir un enfant. Quelle est votre appréciation en tant que spécialiste dans ce domaine ?
Les gens n'ont plus honte. Avant, ils avaient honte de dire oui. Ils arrivaient pratiquement à des heures NG en disant « Docteur, est-ce que je peux vous voir plutôt le week-end ?» Parce que, bon voilà, ils avaient peur qu'on dise qu'elle a bénéficié d'une technique artificielle. C'est pas une technique artificielle, c'est un traitement comme un autre. Donc non, appréhension peut-être, au début, maintenant c'est fini, les femmes viennent.
Non, ce n'est plus tabou quoi.
Non, ce n'est plus tabou, sincèrement. Je crois que dans l'immense majorité des villes, il y a toujours une cousine, une tante, une amie qui a eu recours et c'est la meilleure preuve. Cette période d'imprégnation, à mon avis, est terminée depuis 10 ans. Les 10 premières années, oui, il y avait cette réticence, je peux vous le concéder. Même des confrères, hein, ça partait des confrères qui disaient « Mais qu'est-ce qu'il faut là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est sûr ?» Vous connaissez la mentalité africaine. Et puis après, quand... on a compris les choses très rapidement.
C'est quoi les chances de réussite pour les méthodes, pour les techniques que vous utilisez ?
À peu près 30%, 5 à 30%. Tout est fonction de l'âge. Je vais vous dire ce que fait la nature, ou ce que fait Dieu, si on peut le dire comme ça. Ouais. Il faut savoir que une femme entre 25 et 35 ans a 25% de chances d'avoir des tumeurs enceintes par cycle. Ce n'est pas 100%. Sinon, vous imaginez, la Terre serait trop peuplée. Un couple n'ayant aucun problème n'a que 25% de chances de grossesse par cycle. Alors, quand vous considérez que la fécondation in vitro travaille sur un cycle, vous comprenez tout de suite que l'âge est un facteur très, très important dans les statistiques.
Parlons maintenant du coût. C'est quoi le coût de vos offres?
La fécondation in vitro, elle comprend une partie où il y a un examen clinique, une partie où il y a des échographies, une partie où il y a des examens de sang qu'on fait dans un laboratoire, une partie où on achète des médicaments pour faire la stimulation. Tout cela, compris, tourne autour du million de francs. Mais ce n'est pas remis dans les mains du gynécologue que je suis. Il va faire des examens dans un laboratoire, ça fait peut-être 150 à 200 000 francs. Il va acheter ses médicaments en pharmacie, c'est le plus cher, à peu près 400 000 francs, CFA. Donc, vous voyez que ce qui reste dans la poche du gynécologue, c'est pas grand-chose. À peine 300 000 francs, qui consiste à acheter des milliers de cultures dans lesquelles on élève les embryons, les consommables avec lesquels on élève ces embryons. Donc, dépenser 1 500 $ ou 2 000 $ en Afrique, c'est vraiment rien du tout. À titre de comparaison aussi, quand on doit vous opérer, parfois pour aller tenter d'arranger les trompes, le montant est pratiquement le même.
Et c'est quoi la durée?
La durée, c'est la durée d'un cycle mensuel à peu près. Hein. Pour les patients qui sont sur place, on les voit en début de cycle et au bout de 3 semaines, c'est terminé. Par contre, pour ceux qui sont à l'extérieur, et j'en ai beaucoup, ils me saisissent par Internet. Je les fais voir par les collègues du pays d'origine qui commencent à faire lui-même un somme de bilan. Elle démarre les examens dans son pays d'origine. Elle ne vient au Cameroun que pour passer 15 jours, maximum 15 jours. Alors vous allez dire, mais pourquoi ces gens venant de ces pays européens, en dehors du problème du coût, comme je vous ai dit, il y a des problèmes de facilité sur le plan de la technique. Une dame qui a besoin d'un don de vos sites vient au Cameroun parce qu'elle est d'origine camerounaise, parce qu'elle est africaine, et qu'on peut facilement avoir ces ovocytes chez des jeunes, chez étudiantes, qui ont compris que donner, comme on donne son sang, c'est pour aider à soulager une souffrance moyennant un petit dédommagement.
La stérilité, l'infertilité restent des sujets souvent tabous autour desquels circulent de nombreux stéréotypes. Des stéréotypes qui compliquent la mise en œuvre des politiques de santé publique en la matière. Pour en comprendre les raisons, nous avons contacté Doris Bonnet. Elle est anthropologue et co-autrice avec Véronique Duchesne de l'ouvrage Procréation médicale et mondialisation, expérience africaine.
Si peu de gens en parlent, je pense qu'il y a deux raisons principales. D'une part, les femmes ont peur des mauvaises paroles, des moqueries. Elles ont peur d'être répudiées par le mari ou que la belle famille propose une nouvelle épouse au mari, sans savoir parfois que c'est le mari qui est stérile. On en parle peu aussi pour des raisons plus politiques, car il y a encore l'idée en Afrique qu'il y a une surpopulation qui doit être réglée avant d'autres problèmes. Et même quand nous avons démarré la recherche, on nous disait souvent « mais pourquoi travailler là-dessus puisqu'ils font déjà tellement d'enfants ?» Donc nous, on a voulu lutter contre ces stéréotypes sur l'Afrique et montrer que l'infécondité cache une forêt de problèmes multiples, problèmes sociétaux et problèmes de santé, et souvent des infections à répétition qui ne sont pas soignées, des fibromes qui ne sont pas diagnostiqués, des avortements clandestins non médicalisés. En fait, l'infertilité, il faut l'appréhender avec une approche globale et en termes de santé de la reproduction plus exactement, et en montrant tous les problèmes sociétaux que ça pose pour les femmes et pour les hommes aussi. On ne parle pas suffisamment des hommes qui ont souvent une honte sociale lorsqu'ils découvrent qu'ils sont stériles.
Alors, les cliniques, les méthodes de procréation assistée existent désormais en Afrique, même si on n'en parle pas aussi. Et ces méthodes ne sont pas toujours acceptées et très peu de personnes y ont recours. Pourquoi, selon vous, qui avez travaillé sur le sujet?
Effectivement, peu de personnes ont recours à ces cliniques parce que les méthodes coûtent cher. Il faut compter environ 2 millions CFA pour une fécondation in vitro, ce qui représente une somme vraiment énorme en Afrique. Et de fait, seules les classes moyennes ont recours à ces méthodes. Mais bon, il ne faut pas croire que les classes moyennes sont que des très très riches. Certains sont prêts à vendre des terrains, des voitures, enfin, ils sont prêts à beaucoup de sacrifices pour financer des projets. Donc les méthodes sont quand même acceptées, mais quand elles ne le sont pas, c'est pour des raisons souvent économiques. Mais dans beaucoup d'endroits, on s'aperçoit qu'il faut démystifier un petit peu la fécondation in vitro, qu'il y a beaucoup de couples qui veulent y recourir s'ils n'ont pas de problème d'argent, mais ils se cachent de la famille. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont recours à ces méthodes-là.
Nous remercions Doris Bonnet qui nous répondait depuis Paris. Précisons que l'ouvrage « Procréation médicale et mondialisation, expérience africaine » est disponible aux éditions L'Harmattan.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, de vous donner la parole pour poser vos questions de santé et trouver des réponses auprès de notre consultant, le docteur Amang Genkap. Il est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour, docteur.
Allô, bonjour.
Allô, oui, bonjour.
C'est qui à l'appareil?
Hassan Omar Boulali.
Hassan, vous nous appelez d'où?
De Djibouti.
Vous avez une question?
Oui, tout à fait. J'ai un frère qui a eu une tuberculose cérébrale. Donc, il a pris un traitement et après, il est guéri. Mais le problème, il a eu des effets secondaires, une crise et d'épilepsie, voilà. Donc, le problème, comment on peut faire, en fait, aborder des traitements sur ça et à chaque fois, ça revient. S'il arrête le traitement, ça revient. Donc, d'où vient le problème et est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des associations qui peuvent nous aider à amener à l'extérieur, donc à avoir un voyage médical à l'extérieur?
Merci beaucoup, Hassan, d'avoir appelé. Docteur Nguyenkamp est là pour vous répondre.
Ce que je veux préciser, c'est que la tuberculose est une infection bactérienne qui affecte surtout les poumons. Il peut également avoir d'autres localisations. La localisation cérébrale intervient comme une complication de la tuberculose dans son ensemble. Les crises épileptiques, très souvent, ne sont pas en rapport avec des effets secondaires du traitement, mais sont plutôt l'expression symptomatique de cette tuberculose au niveau du cerveau. C'est pour cette raison que, pour éviter notamment les rechutes que signale Hassan chez son frère, il faudrait savoir si le traitement est pris avec un respect de la prescription, à savoir les doses de prescription et deuxièmement la durée de prescription qui peut parfois aller de 6 mois à 12 mois. L'autre élément important que je voudrais également préciser, c'est que les épilepsies qui surviennent aussi régulièrement chez le frère d'Hassan sont plutôt le témoin que la guérison peut-être n'est pas achevée et qu'il existe encore des foyers de tuberculose cérébrale qu'il faudrait éradiquer. Et c'est pour cette raison que je l'invite vraiment à revoir le médecin pour faire le point par rapport à la guérison effective et sur ces crises d'épilepsie à répétition qui sont pour moi la manifestation d'une tuberculose cérébrale qui existe encore ou les séquelles d'une tuberculose cérébrale qui malheureusement n'est pas complètement guérie. L'élément également que j'aimerais préciser, c'est que les rechutes d'une tuberculose cérébrale peuvent être en rapport avec un état immunitaire défaillant. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, j'invite Hassan à amener son frère chez un médecin pour refaire le point par rapport à cette situation-là. Quant aux associations qu'il souhaite avoir, il faudrait dans un premier temps connaître le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire. Ce n'est que lorsqu'on connaît le motif d'une éventuelle évacuation sanitaire qu'on peut proposer une éventuelle association. Mais pour ma part, je pense qu'à Djibouti, il y a de la compétence et les moyens pour pouvoir prendre en charge une tuberculose cérébrale, y compris une tuberculose cérébrale de type épileptique.
Merci, docteur.
Voilà, c'est donc par ici que prend fin Votre Santé, Votre Avenir, une émission qui était consacrée aux problèmes d'infertilité en Afrique. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Ernestine Bell, gynécologue, obstétricienne et fondatrice de la clinique Odyssée à Douala, au Cameroun. Elle nous a expliqué les causes de ces difficultés de procréation. Nous avons également écouté deux témoignages, celui du docteur Guy Saint-John, gynécologue obstétricien et spécialiste de la procréation médicalement assistée. Il nous a parlé des méthodes qu'il pratique depuis une vingtaine d'années pour aider les couples infertiles à faire des enfants. Nous avons également écouté le témoignage de Boris Bonnet, anthropologue et co-autrice du livre « Procréation médicale et mondialisation, expérience africaine ». Elle nous a parlé des obstacles sociaux et politiques auxquels font face les couples infertiles. Notre consultant, le docteur Armand Genkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci.
Merci également à Firmin Koyaweda, toujours au rendez-vous pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Aiden Utko était à la console et notre ami le très sympathique Georges Léonard Sagnon signe la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez avec Mamadou Oumfa, j'étais en compagnie de
Rosine Monezero.
Restez branchés au programme de VO Afrique. N'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.